Alors, le calendrier nous dit que c'est le dimanche de Pentecôte. Pentecôte, tout ce que ça veut dire, c'est le 50e jour. Donc, le 50e jour après Pâques. Hein, donc, c'est tout, c'est pour ça que ça tombe à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que nous mentionnons cette fête? C'était une fête juive, hein, Pentecôte, c'était là où ils ramenaient tous les récoltes. Hein, pour nous, c'est autre chose. Depuis ce premier Pentecôte, après la mort de Christ, ce que nous célébrons n'est pas seulement un événement marquant de l'histoire chrétienne, parce que les retombées de Pentecôte et ce qui est arrivé ce jour de Pentecôte, eh bien, nous en jouissons encore aujourd'hui. Après 2000 ans d'histoire humaine, et Dieu sait combien il y a eu de bouleversements et combien il y a eu de retournements de situation depuis, et pourtant, l'effet de Pentecôte est toujours là. C'est étonnant que ce qui est arrivé à une poignée d'hommes, hein, bon maximum, ils étaient 120 hein, dans la chambre haute. C'est étonnant que là, quelque chose qui arrive à 120 disciples retranchés dans une chambre haute, dans une ruelle de Jérusalem, eh bien, puisse subsister après tant de persécutions de l'Église primitive. Qu'ils puissent encore être là après les renversements d'empires et de royaumes, que depuis il y a eu l'apparition de nouvelles religions, des religions qui sont prises de l'importance, de l'ampleur. Il y a eu aussi des grands philosophes qui sont venus depuis et qui ont des philosophies sociales, d'autres économiques, tout ça est venu, il y a eu des grands bouleversements, il y a beaucoup de chances, des populations entières qui ont été déplacées. Et pourtant, Pentecôte, ça reste encore vrai. Et c'est extraordinaire. Très certainement, c'est parce que le moteur derrière Pentecôte et le sens de Pentecôte, eh bien, n'est pas entre les mains des êtres humains. Hein, ça provient d'ailleurs. En fait, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, hein, c'est là que nous allons être, nous allons voir ce matin Actes chapitre 1 et chapitre 2, mais si je regarde dans Actes chapitre 2 et je lis les versets 1 et 2, il nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc l'origine de ce qui est arrivé est dans le ciel. Hein. C'est un événement céleste, ça vient du ciel, et c'est pour ça que ça échappe au pouvoir des hommes. Ils ne peuvent ni annuler ses effets, ni modifier son orientation, ni rien du tout. C'était sans la volonté des hommes, et c'est toujours sans la volonté des hommes. Et cela nous explique pourquoi le Pentecôte, en fait, transcende tous les événements terrestres, transcende les cultures, transcende les frontières nationales. C'est Pentecôte, c'est Pentecôte, peu importe ce qui arrive sur Terre. Et donc, c'est pour ça que Pentecôte est important pour nous. Je veux souligner trois points importants qui sont rattachés à Pentecôte. Pentecôte, c'était d'abord la réalisation d'une prophétie. Deuxièmement, c'est l'inauguration d'une nouvelle dispensation ou économie avec Dieu, entre l'homme et Dieu. Et puis troisièmement, eh bien, c'est la naissance de l'Église. Hein, c'est vraiment Pentecôte, c'est un point important. C'est là où Dieu intervient dans l'histoire des hommes et il y a des changements. Premièrement, la réalisation d'une prophétie. Si nous lisons dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, Luc, qui était en train de faire le rôle de journaliste, hein, qui nous rapporte ce qui est arrivé, en consultant toutes les personnes qui étaient impliquées. Alors, il écrit à partir du verset 3, il dit « Quand, après qu'il eut souffert, parlant de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Donc une promesse, d'attendre ce que le Père avait promis, de rester à Jérusalem, ne bougez pas, jusqu'à ce que la promesse vous est donnée. Et il dit, « Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, il parle de Jean-Baptiste, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voilà, il leur dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, donc restez à Jérusalem, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est intéressant parce que, en fait, quand Jean-Baptiste l'a dit, et il essayait de montrer que Jésus-Christ était supérieur à lui, il dit « Moi, je viens, je vous baptise d'eau. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera de feu. » C'est comme ça que Jean-Baptiste l'avait dit. Et Jésus, en fait, redit la même chose. Il dit « Jean a baptisé d'eau, et moi, je vous baptise du Saint-Esprit. » Et donc, il annonce ça aux disciples. Jésus annonce cela et 10 jours plus tard, après l'ascension de Christ, donc 10 jours plus tard, les disciples sont là dans la chambre haute et tout d'un coup il y a ce bruit qui entre dans la pièce et ils voient des flammes de feu. Et tout de suite, bien, il y a le signe visible, mais qui indique l'accomplissement d'une promesse. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors, bien sûr, donc les disciples ont ce signe visible qui permet de confirmer ce qui n'est pas visible, c'est le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez dans Actes chapitre 2, et... Donc je relis le verset 2, il nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. » Et si vous lisez dans le chapitre 1, vers le verset 14, 13, 14, vous voyez qu'il y avait les 12 disciples, plus pour que ça fasse 120 personnes, et puis il y avait des femmes, et puis il y avait la mère de Jésus, et il y avait les frères de Jésus, donc il y avait tout ce monde, hein, donc c'est tous, hein, c'est pas uniquement les 11 disciples de Jésus, plus celui qu'ils ont élu, mais il y avait tout cet autre monde, et Dieu n'a pas fait de distinction entre hommes et femmes, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et il nous dit, donc au verset, chapitre 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et donc, le signe visible, le signe inexplicable, parce que c'est comme ça qu'un bon signe, c'est un signe que l'homme ne peut pas reproduire, hein. Si Dieu donne un signe, il faut que ce soit un signe qui est impossible à reproduire. Hein, comme ça, on sait que c'est la signature de Dieu. Hein, donc, et là, tout d'un coup, ces personnes qui ne parlaient aucune langue étrangère, tout d'un coup, se sont mis à parler des langues étrangères. Et des vraies, vraiment, des langues étrangères, parce que nous voyons plus tard dans le chapitre qu'ils descendent dans la rue et des gens les reconnaissent. Ils reconnaissent les langues et ils reconnaissent même... c'est pas seulement avec un accent de Galiléen, mais c'était avec l'accent du pays. Hein, c'est des choses extraordinaires parce que, vous savez, l'accent, on ne perd pas ça. C'est pas, la volonté ne contrôle pas un accent. Là où on l'a pas, on l'acquiert ou on ne l'acquiert pas, mais ce n'est pas comme ça en un instant. Et donc, c'était un signe inexplicable et pour les disciples ou les apôtres et pour les gens dans la rue. Hein, c'était un signe sûr. Hein, Dieu a vraiment a choisi quelque chose. Et vous savez, en plus, il aurait pu faire que le soleil devienne vert aussi. Hein, mais Dieu ne fait pas des miracles rien que pour le show. Hein, c'est quelque chose. En donnant des langues, il est en train de dire ce message à partir d'aujourd'hui, ce sera pour le monde entier, de toutes les langues. Il y avait un message même dans le signe. Hein. Alors, le fait que il y ait ce phénomène et puis qu'ils se mettent à parler en langue, c'était justement, ça a permis aux disciples de savoir que ce qui leur arrivait, c'était réellement ce dont Jésus avait promis. C'était pas, même si c'était un phénomène nouveau, mais c'était quelque chose de réel. Et bien sûr qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'interpréter cela que de penser « Ah, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. » Il nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Donc, distinguons rempli du Saint-Esprit de baptisé du Saint-Esprit. Là, les deux sont arrivés en même temps. Être rempli du Saint-Esprit, et si vous lisez dans Éphésiens, il nous dit que de ne pas être sous l'influence du vin, d'être ivre, mais d'être plutôt rempli de l'Esprit, c'est-à-dire sous le contrôle de l'Esprit. Hein, c'est où l'Esprit prend possession de la personne. Et si vous lisez dans les Actes des apôtres, je ne vais pas le faire, mais si vous lisez dans les chapitres, vous allez voir que les mêmes apôtres sont remplis plusieurs fois de l'Esprit. Tandis que le baptême de l'Esprit, c'est une seule fois. Hein, la venue de l'Esprit en tant que accomplissement d'une prophétie, en le voyant autrement aussi, regardez dans le chapitre 1, je continue à lire au verset 4, donc chapitre 1, verset 4, il dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, finalement, c'était 10 jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 6. Alors, les disciples réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Là, ils sont, et ça fait pas la, c'est pas la première fois qu'ils posent la question. Hein. Pour ceux qui viennent le jeudi, vous voyez qu'ils l'ont déjà posé dans Matthieu chapitre 24, ils ont posé cette même question. Et Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et c'est ce qu'il a répondu dans Matthieu 24 aussi. C'est la même réponse, il a dit, « Écoutez, je sais, vous voulez savoir, mais vous ne le saurez pas, et personne ne saura quand. Vous n'avez pas besoin de le savoir, et puis c'est mieux que vous ne le sachiez pas. » Verset 7. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, là il ajoute, bon, je ne peux pas vous donner de date, mais je peux vous dire quelque chose. Et là, il fait une prophétie. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous recevrez une puissance qui fera de vous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, donc le monde entier. Il dit, je vous dis, à vous, en tant que disciples, et pas seulement vous présents, Mais ceux qui croiront par la suite et qui seront mes disciples, hein, comme il dit dans Jean chapitre 17, hein, il dit « Je prie non pas seulement pour cela, mais ceux qui croiront dans leur témoignage. » Donc c'est pour les disciples tout le long de l'histoire du christianisme. Il dit « Vous serez mes témoins. » Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des témoins de cette œuvre de la croix. Il dit « Et vous serez témoins. » Et c'est une chose qui dépasse un peu la pensée du juif, c'est que vous serez témoins à Jérusalem, d'accord, en Judée, d'accord, c'est encore, il y a des juifs là, en Samarie, ah bon, en Samarie, on n'aime pas ces gens-là, si, vous serez témoins en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, chez les Grecs, chez les Romains, et puis ceux qu'ils appelaient à l'époque les barbares, et plus loin. Il dit, vous serez des témoins dans tout ça. Pour eux, c'est comment ? Et comment ? Mais c'est immense ! Il dit, mais je vous donne un signe. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre, mais lorsque vous réfléchissez et vous voyez dans la Bible, Dieu, toujours quand il fait une prophétie d'un événement très important, il donne un signe qui peut être constaté durant la vie même de la personne, pour confirmer, pour certifier l'accomplissement de ce qui va se passer beaucoup plus loin. Et donc, là, il est en train de dire, je vais vous donner un signe que vous constaterez vous-même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand vous saurez ça, vous saurez que la suite sera vraie, que le message de l'Évangile sera proclamé partout. Pour eux, c'était une notion nouvelle. Bon, pour nous, on est un peu habitués. Hein, 2000 ans plus tard, quand on regarde en arrière, la vue, elle est extraordinaire. Hein, c'est quand on regarde en avant qu'on a du mal. On a du mal à se projeter. Mais on regarde en arrière, on arrive à voir assez clair. Donc pour eux, c'était une idée. Mais pour nous, voilà, l'Évangile, va dans toutes les nations. Et la Bible elle-même, et les portions de la Bible sont traduites dans plus de 2000 langues, et ils sont encore en voie de traduction, ils sont en train de les traduire dans les langues de toutes les tribus. Même ici en France, hein, vous avez plusieurs traductions, parce que vous avez, oui, le français bien sûr, mais en France on a aussi la Bible en breton, on a la Bible en basque, on a la Bible en corse, on a la Bible en allemand, hein, pour les Alsaciens, ils étudient ça, mais on a toutes ces langues, rien que pour nous en France. Hein. Et donc, et sans parler de ce qui se passe dans le reste du monde. Mais il a dit, vous recevrez cette puissance. Et donc à Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était le signe que, vous savez, ce message de l'Évangile va se propager sur la terre entière. Et lorsque nous regardons cet enregistrement vidéo des événements futurs dans l'Apocalypse, hein, parce que c'est, voilà, il nous parle des choses futures, dans Apocalypse chapitre 5, il dit Jean qui regardait dans cette vision et voyait les événements futurs, et voyait dans le ciel des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation, dans le ciel. Donc c'est une chose qui va se faire, qui se fera, qui est en train de se faire. Tout ça, Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, parce que pour Israël, avant cela, c'était toujours quelque chose qui était rattaché à eux. Il fallait devenir juif, il fallait rentrer chez eux, il fallait se faire circoncire si on était homme, il fallait rentrer dans cette alliance-là. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. C'est pour ça que je parle de l'inauguration d'une nouvelle dispensation. Depuis Moïse jusqu'à la mort de Christ, c'était le salut, c'était vers Israël qu'il fallait se tourner. Hein, même Rahab, la femme prostituée de Jéricho, elle s'est intégrée au peuple juif. Que ce soit Ruth, la Moabite, il fallait qu'elle s'intègre. Bon, elle a fait partie de la descendance de Christ aussi, mais il fallait qu'elle s'intègre dans ce peuple. Mais depuis Pentecôte, Dieu inaugure une nouvelle économie, un nouveau principe qui respecte les principes des périodes précédentes, parce que la foi, le salut a toujours été par la foi. Hein. Que ce soit Abraham, qui était avant Moïse, c'est par la foi qu'Abraham, ce soit pendant toute la période de la loi, donc depuis Sinaï jusqu'à la croix, eh bien, c'était par la foi. Le fait d'être juif ne suffisait pas pour être sauvé, il fallait être juif croyant. Hein? Et encore, c'est le principe par la foi, mais le principe, au lieu que tout soit obligé de venir dans un peuple, rassembler un peuple, eh bien maintenant, c'est libre et par la foi. Donc, vous savez, si on ne peut pas, de nos jours, honnêtement, on ne peut pas prétendre, il n'y a aucune église qui peut prétendre avoir, détenir le salut. Vous faites partie de notre église, vous serez sauvés. Hors de l'église, point de salut, vous l'avez peut-être entendu. Et puis après l'autre là-bas, et puis il dit la même chose. Et puis après vous allez chez cet autre, il dit non, c'est chez nous. Et vous rencontrez les témoins de Jéhovah, il dit non, c'est chez nous. Et finalement, ça crée beaucoup de problèmes. Et puis combien de gens me jettent ça à la figure et me disent, ah oui, mais vous, les chrétiens, vous êtes... Chacun dit que c'est chez lui qu'il détient la vérité. Je dis, oui, mais d'accord, les chrétiens le disent, mais la Bible ne le dit pas. Hein, tout ce que je veux, c'est que tu reçoives la Bible. Pas. Je ne te demande pas de croire aux chrétiens, je te demande de croire la Bible. Et pour la Bible, eh bien, la vérité, c'est Dieu qui la détient. Et c'est en Jésus-Christ que nous venons. Et depuis Pentecôte, eh bien, le message est là. Il dit, il le dit très, très simplement. Et il y a des versets extraordinaires, hein, je vous les lis. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas, il faut se joindre à l'église baptiste de Fréjus. C'est pas marqué, ni à une autre, ni aller voir un tel. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc tu reconnais qui il est. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois qu'il l'a ressuscité, c'est qu'il est mort. Hein. Donc c'est inclus. Eh bien, tu seras sauvé. C'est lui qui le déclare. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il dit, quand tu viens vers lui, tu crois, tu recevras. C'est Romains 10, 9 à 11. Un autre verset dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pas par des sacrements, non pas par des jeûnes, non pas par des prières ou des pèlerinages, tout ça. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi strictement. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et c'est pour ça que c'est sûr. Parce que si ça venait de moi, eh bien pour l'instant, j'ai encore rien fait de parfait. Hein? Même si ça fait bientôt 41 ans que je suis marié, je ne peux pas dire que mon mariage est parfait. Parce que c'est moi qui suis dedans, hein? Donc il n'est pas parfait. Mais il dit, c'est le don de Dieu. Et parce que c'est le don de Dieu et ce que Dieu offre est bien fait. Regardez la nature. Écoutez, regardez la nature. Depuis combien d'années les hommes sont en train de démolir, détruire la nature, elle est encore belle. Je dis, qu'est-ce qu'elle devrait être belle à l'origine, hein, c'est déjà arrivé, vous regardez une dame, vous voyez qu'elle est âgée, mais vous voyez son visage, vous dites, oh, elle devait être belle quand elle était jeune. La beauté reste, les traces sont là. Eh bien, c'est pareil à notre monde. On la voit, elle vieillit, mais on dit, mais qu'est-ce qu'elle devait être belle à l'origine? Eh bien, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et il fait tout à merveille. Hein, c'est ça qu'on disait de Jésus. Il fait toutes choses à merveille. Dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand même, Dieu connaît l'homme. Hein, parce qu'il sait que dès que l'homme peut prétendre avoir fait quelque chose, eh bien, tout d'un coup, il se sent un peu plus grand. Hein, il prend des centimètres. Il y en a qui prennent des mètres, mais... Voilà. Mais il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il n'y a bien pas à se glorifier. C'est toute la gloire est à Dieu. Et j'ajoute encore un autre verset, 1 Timothée 2, 5 et 6, il dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Voilà, il a acquis ce droit parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Un seul médiateur, que Dieu reconnaisse, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu. Il y en a qui viennent vous dire, il s'appelle comment Dieu ? Je dis, il s'appelle comment ? Je ne sais pas, il s'appelle Dieu. La Bible l'appelle, mais il s'appelle Jéhovah. Je dis, mais Jéhovah, la traduction c'est l'éternel. Je dis, il est tout seul. Il n'y a pas besoin de nom pour le distinguer. Nous, on a des noms parce qu'il faut se distinguer les uns des autres. Mais lui, il est tout seul. Il est unique. Si on avait un arbre qui était unique dans le monde, eh bien, on l'appellerait l'arbre. On ne serait pas obligé de lui l'appeler autre chose. On dirait l'arbre. Et tout le monde comprendrait que c'est celui-là, c'est l'unique. Mais c'est pareil. Dieu, parce qu'il est unique. Et il n'y a pas à s'amuser à se départager entre hommes pour des noms. Il a dit, moi je me définis par des attributs. Et donc il a un grand nombre d'attributs, et la Bible nous en présente énormément, il a un grand nombre d'attributs, mais c'est pour nous aider à comprendre l'abstrait. Il se définit. Nous, on définit quelqu'un, on dit, moi, il est grand, il a des cheveux comme ça, puis il a les yeux ceci, puis il boite un petit peu d'un côté. Bon, on utilise, c'est comme ça, c'est le physique qu'on décrit. Mais Dieu n'a pas de physique. On décrit le caractère. Donc on décrit cet attribut. Il est fidèle, il est amour, il est juste, il est parfait. Il est là. Il sait tout. Ça, c'est notre Dieu. Donc l'inauguration, la Pentecôte, c'était l'inauguration d'une nouvelle dispensation. On a, sous la loi, les hommes, lorsqu'ils reconnaissaient son péché, ils découvraient du péché dans sa vie, il fallait qu'ils trouvent un animal innocent et qu'ils l'amènent jusqu'au prêtre, qu'ils le sacrifient, qu'ils confessent ses péchés, et puis le prêtre lui déclarait pardonné. Il dit, depuis Jésus-Christ, il dit, non, Jésus-Christ est mort, c'est fait, il suffit d'invoquer son nom. Et on obtient le pardon des péchés. Donc c'est une nouvelle dispensation et c'est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc comment être sauvé aujourd'hui ? Eh bien tout simplement en invoquant le nom de Jésus, celui qui est mort sur la croix, celui qui est le seul médiateur. C'est ça que j'ai besoin, un médiateur entre moi et Dieu. Il y a un problème entre nous, j'ai commis des péchés, ça fait un froid entre nous et j'ai besoin de régler cela. Et donc, je passe par Jésus. Jésus dit, écoute, pas de problème, moi j'ai tout payé. Je peux parler pour toi et je te comprends aussi parce que j'ai été chez toi. Vous savez, je trouve toujours extraordinaire. On appelle Jésus le bon berger. Mais vous savez pourquoi il est bon berger ? C'est parce qu'il a déjà été agneau. Celui qui a été homme, il sait être Dieu pour nous et nous représenter. Il est homme. Il est l'intermédiaire parfait. Donc nous appelons cette nouvelle dispensation, nous l'appelons la période de la grâce. C'est pas grâce, on vient à Dieu. Et on n'est pas obligé de passer ni par une église, ni par un pasteur, ni par quelqu'un d'autre, on s'adresse directement à Dieu. Au mieux, on trouve quelqu'un, notre chrétien, qui nous accompagne. Mais sinon, après, on traite directement avec Dieu. C'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on s'adresse, c'est à lui qu'on demande tout. Et Dieu veut. Et Dieu veut nous recevoir. Et Dieu veut faire cette œuvre. Et le message, donc, ce nouveau message, eh bien, il est à la portée de tous. On peut le propager dans n'importe quel pays. Il suffit de traduire. Mais le message reste le même. N'importe quel peuple, peu importe ses origines, n'importe quel individu, de tout rang social, peu importe. Je peux, à partir du moment où il respire, je peux lui parler de Jésus-Christ. Et Dieu fait une œuvre, et comme je dis parfois, quand j'ai commencé le ministère, il y a bien des années, je croyais ce que je crois aujourd'hui. Mais je dis maintenant, j'y crois encore plus fort. Pourquoi ? Parce que j'ai vu comment ça transforme. Et j'ai vu que, qu'on le dise en anglais, qu'on le dise en français, qu'on le dise en arabe, le résultat est le même. C'est le même produit. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. La force n'est pas dans la traduction, comme ils nous disent dans certains livres. Hein, s'il faut le lire dans la langue originale, sinon ça ne veut rien dire. La puissance est dans la littérature. Depuis quand ? Non, la puissance est dans celui qui l'a prononcé. Dieu l'a parlé, la puissance est en Dieu. C'est pour ça que ce message a de l'effet. Donc, nous avons dit qu'il y a une prophétie qui s'accomplit à Pentecôte. Il y a aussi une nouvelle dispensation qui est inaugurée et dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, sentez-vous libre de vous approcher de Dieu, il vous recevra sur la base de ces vérités. Et puis aussi, à Pentecôte, eh bien, c'est la naissance de l'Église. L'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle ni de l'Église baptiste, ni de l'Église catholique, ni de l'Église orthodoxe, ni d'une autre. Je parle de l'Église telle qu'elle était dans la pensée de Jésus-Christ, quand il a dit « je bâtirai mon Église ». Les hommes ont récupéré le mot, et puis dès que l'homme touche quelque chose, ce n'est plus comme à l'origine. Et donc, la meilleure chose, c'est de revenir à ce dont Jésus parle. Alors, dans Actes chapitre 11, si vous vous rappelez, l'apôtre Pierre se trouvait chez Corneille. C'est la première fois qu'il rentre chez un païen, parce que ce n'était pas bien pour un juif d'entrer chez un païen, parce que ça souillait. Mais Jésus lui dit, n'appelle pas impur ce que Dieu a appelé pur. Il lui avait dit ça, si vous ne connaissez pas le récit, lisez le chapitre 10 et 11 des Actes et vous aurez tous les détails. Mais il va chez Corneille et Dieu lui dit, écoute, tu vas chez Corneille et tu dis ce que tu as à dire, le message que tu as, que tu portes. Alors il est rentré là sans trop croire à la chose, il était un peu étonné que Dieu lui envoie là, jamais eu de païen qui se convertit avant. Jamais eu la pensée qu'il fallait parler à ces païens. C'est quand même nouveau dans sa tête. C'est extraordinaire comment, même si on est apôtre, rempli de l'Esprit de Dieu, on peut penser faux sur quelque chose. Même l'apôtre Pierre, il n'était pas sans défaut. Dieu a dû l'éduquer. Et donc, Pierre rentre, et puis il n'a qu'un seul message, c'est parler de Jésus-Christ. Donc il commence à parler de Jésus-Christ. Et il parle de ça, et tout d'un coup, il vient de parler du fait que Christ soit mort sur la croix, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, un phénomène qui se passe. Tout d'un coup, ces gens qui écoutent, parce qu'au fur et à mesure que lui parle, eux, ils sont en train de recevoir, d'assimiler, de croire, au fur et à mesure qu'ils reçoivent, ils croient, font confiance, et tout d'un coup, ils se mettent à parler en langue. Et Pierre, là, bon, s'il y avait une vidéo, on le mettrait avec des gros yeux, là, il se demande qu'est-ce qui se passe, parce que ça ne devait pas se passer, ça ne pouvait pas se passer dans son esprit, mais ça se passe. Et il se dit, mais ça ressemble beaucoup à ce qui nous est arrivé, nous, à Pentecôte. En fait, c'est la même chose. Et il a su interpréter le signe. Parce que c'était un signe pour lui, le fait que ces gens parlent en langue, c'est pas parce qu'il y avait des gens de diverses langues présentes, c'était pas utile pour eux, c'était utile pour Pierre, pour qu'il associe ce qui se passait là, chez ces païens, à ce qui s'était passé chez eux, à Jérusalem. Et il a conclu, il a dit, apparemment, le message est pour les païens comme pour les juifs. Et là, il avait raison. Et il a dit, mais puisque Dieu les reçoit, qu'est-ce que je peux faire moi? Je les reçois. Et il a dit donc que je les ai baptisés. Et quand il est rentré à Jérusalem, bien sûr, vous savez comment c'est, les rumeurs, ça va plus vite que nous. Hein. Les rumeurs étaient déjà arrivées à Jérusalem. Ah, tu as été chez des païens, tu as prêché, tu as baptisé des païens. Qu'est-ce que c'est, Pierre? Tu dévis carrément. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoutez, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Puis il raconte tout. Il dit, quand ils ont parlé, moi j'ai pensé à ce que le Seigneur nous avait dit. Il a dit, bien viendra le jour où vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand je les ai vus comme ça, le même phénomène que ce qui nous est arrivé, j'ai compris que c'était le baptême du Saint-Esprit. Si c'était le baptême du Saint-Esprit, le mot baptême, c'est un mot grec qui veut dire plonger. C'est-à-dire, s'ils sont pris par l'Esprit de Dieu et ils sont introduits dans le corps de Christ, qu'est-ce que je peux faire, moi? Si lui le fait, il faut que j'accepte. Et ces gens à Jérusalem, là, pour eux, c'était une nouvelle pensée. Mais quand ça a pénétré leur tête, tout d'un coup, il nous dit, à la fin du chapitre, au verset 18, acte chapitre 11, verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça c'est après Pentecôte, que je ne vois pas le rapport. Mais c'était juste pour dire que le baptême du Saint-Esprit, c'était lorsque on prend les individus, on les intègre, on les introduit dans le corps de Christ. Regardez Actes chapitre 2. Et verset 46, il dit, ils étaient chaque jour, donc parler de tous les croyants, hein, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et là, quand ils arrivent à ce point-là, ils sont déjà à plusieurs milliers, hein. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et regardez ça à la fin là, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait, c'est pas Saint-Pierre qui va, hein, et qui dit, bon, tu crois? Ben, très bien, je te reçois dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'était pas comme ça. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Et quand le Seigneur ajoute, il sait ajouter, il le fait bien, et il ajoute pour de bon. Il sait ce qu'il y a à faire. Hein, nous, les hommes, on pourrait dire, moi, je crois que c'est sincère, hein, il est bien aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qu'il sera dans 10 ans. Parce que Jésus-Christ sait, il sait tout cela. Et quand il reçoit, il dit, moi, je reçois, et j'accepte, j'assume. Et donc, c'est le Seigneur qui ajoutait à son Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, et c'est comme ça encore aujourd'hui que ça se passe, même si les Églises ont leur registre, et puis toi tu étais baptisé, donc je t'inscris ton nom, maintenant tu es chrétien, et puis ceci, cela, et puis on nous a pris bébé, et puis on nous a inscrit dans les registres, ces registres-là, ils n'iront jamais au ciel. Il y a un registre au ciel. C'est le livre de vie. Jésus a dit, réjouissez-vous, non pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Que votre nom soit là dans la présence de Dieu. C'est ça. Qu'on soit inscrit sur quelque chose ici sur terre, peu importe. Ce qui importe, c'est que par la foi, j'ai reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi mes péchés, reçois-moi, je veux être à toi. Et puis, alors, tout d'un coup, le nom apparaît sur le registre céleste. Je vous lis encore quelques versets, là. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Je vous rappelle, en passant, pour donner le contexte, c'est que Corinthiens, l'église de Corinthe, c'est peut-être la moins bonne des églises, hein, qui est mentionnée dans le Nouveau Testament. Hein, c'est là où il y a le plus de problèmes. Et regardez ce qu'il dit par rapport à eux. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, et je commence avec verset 12, hein, c'est surtout le verset 13 que je veux voir, mais je vais commencer avec verset 12. Il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » C'est ça qui importe. Ce n'est pas l'église évangélique ou l'église ceci ou l'église cela. Ce n'est pas ça qui compte. C'est est-ce que je suis dans l'église de Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai été introduit par l'Esprit de Dieu ? Est-ce que je suis abreuvé par l'Esprit de Dieu ? Quand je lis la parole, je me sens nourri. Je me sens purifié. Je me sens encouragé. Je reprends des forces. Ma vue s'améliore spirituellement. Hein. Vous savez, il n'y a aucune mention de sacrement humain, de sacrement qui est fait par les hommes. C'est tout spirituel. Toute l'œuvre de Dieu est spirituelle. Et strictement. J'ai plus confiance en ce que Dieu fait que ce que les hommes pourraient faire, même s'ils sont sincères. Un autre passage dans Apocalypse, hein, j'ai parlé de l'Apocalypse, alors, et je veux lire justement ce qui se passe concernant ce livre de vie. Donc Apocalypse chapitre 20, vous pourrez noter, parce que je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais lire, écoutez, je vais quand même lire quelques versets. Je vais commencer au verset 11. Apocalypse chapitre 20, je vais lire du verset 11 à 15. Donc c'est le jugement dernier, hein, c'est la fin du monde. Et donc il dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc il s'agit de Dieu. Hein. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. » Donc il y a des livres et il y a un livre. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. Donc, dans les livres, c'est toutes les mauvaises actions, tous les péchés qui n'ont pas été pardonnés. Hein, donc, chacun, il a sa page. Et puis, si ça n'a pas été pardonné par le sang de Christ, eh ben, c'est encore sur la page. Hein, donc, il dit, écoute, je regarde ton nom. Hein, tu sais, la page, elle est pleine, là. Il dit, ils furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc c'est une question, le seul registre qui vaille nous préoccuper, c'est le livre de vie. Et qui est-ce qui est écrit là ? C'est pas Monseigneur un tel, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a que lui. Et quand il écrit, il y a... Vous savez, dans son livre, il n'y a pas de rature. Parce que c'est parfait. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque, quand j'allais à l'école, on écrivait avec les plumes et tout ça, bien sûr, le bon vieux temps, hein, bien sûr. Et puis, mais s'il y avait une rature, s'il y avait une tache, on avait zéro pour tout le devoir, même si c'était bon. Ah, c'était dur. Parce qu'on voulait la perfection. Dans le livre de vie de Dieu, il n'y a pas de rature. Il inscrit un livre et le nom n'est jamais barré. Il inscrit un nom et le nom n'est jamais barré. Il ne pourra pas être barré parce que c'est Dieu qui l'inscrit. Il n'y a que les hommes. C'est bien ce qu'on dit en latin, hein, que l'erreur est humaine. Je ne vais pas le prononcer en latin parce que je risque de dire une bêtise là, mal prononcée, mais l'erreur est humaine. Mais l'erreur n'est pas divine. Dieu n'est pas, il ne fait pas d'erreur. Et voilà. Il dit, réjouissez-vous. Non que des démons vous soient soumis. Si vous aviez les pouvoirs sur les démons, il dit, c'est rien ça. Ce qui importe, c'est que votre nom soit inscrit sur le livre de vie. La question ce matin, est-ce que votre nom est inscrit sur le livre de vie? Si il n'est pas inscrit, ben il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Hein? On vient voir celui qui est inscrit. Hein? Il faut s'adresser à la bonne adresse. Hein? Parler à Dieu. Il dit, ben, je ne sais pas comment y aller, tout ça. Tu peux m'accompagner? Ah oui, je serais content de vous accompagner. Mais je vous accompagne à lui. Hein? Après, voilà, je présente, voilà, et ça t'intéresse, voilà, le cas, voilà. Tu... Et après, c'est entre les deux. Hein? Et puis, le nom est inscrit. Et puis après, vous avez la vie éternelle. Et vous êtes soulagé. Oh, vous ne devenez pas parfait tout d'un coup. Mais le nom est inscrit. Et après, si le nom est inscrit, donc après, c'est Dieu qui fait son œuvre, hein, et transforme. Et nous transforme à son image. Voilà ce que Dieu a pour nous. Pentecôte, ça fait toute la différence. Je dirais, la croix, ça fait toute la différence. Mais la croix sans Pentecôte, sans la résurrection, s'il n'y avait rien, ça ne suffit pas. Et il nous faut Pentecôte parce que c'est là notre espérance. Donc Pentecôte, c'est un grand jour. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Vous vous rendez compte? Par l'Esprit de Dieu, Dieu est présent. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas, comme disent les témoins de Jéhovah, une influence ou une force, c'est la personne de la divinité. C'est dans la Trinité, triunité divine, le Saint-Esprit est l'expression même, et il a tous les attributs de Dieu. Et il fait sa demeure en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Après, bon, les temples, on les traite autrement que des cinémas. Hein. Vous avez ça, le fait. C'est une autre vie. Prions. Père Céleste, merci pour ce grand amour. Encore une fois, Pentecôte met en valeur l'œuvre de la croix, parce que là, quelque chose a été acquis. Et à Pentecôte, nous l'obtenons. Et Père, toute notre espérance dans ce monde agité où tout bouge et rien n'est sûr et on ne peut faire confiance à personne, eh bien, le nord, il ne se déplace pas. La mer peut être agitée, mais la boussole indique toujours le nord. Et Seigneur, ta parole aussi, c'est notre boussole spirituelle qui nous indique toujours notre nord spirituel, toi, Jésus-Christ. Père, que ces paroles pénètrent au fond de nos cœurs. Ces pensées ne sont pas les biens d'un mouvement chrétien terrestre, mais c'est toujours quelque chose qui vient de toi, qui vient d'en haut. Et ça reste ainsi. Les hommes ont essayé de se l'accaparer, mais c'est toujours à toi. Et c'est à toi que nous venons. Pour ceux ici qui ont déjà les noms inscrits dans le livre, bien Seigneur, rassure-les. Pour ceux qui ne l'ont pas encore inscrit, qu'ils viennent. Ça se fait gratuitement pour nous parce que toi, tu as payé le prix. Ça a été cher pour toi, mais pour nous, c'est gratuit. Tu nous invites, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Père, loué soit ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes venus à toi, que nous adressons à toi. Amen.